Docteur Elizabeth Mburu, qui a beaucoup de accolades. Elle a créé Langam. Elle a créé Actia. Elle travaille pour ces deux organisations et elle est aussi dans le conseil exécutif de l'école biblique baptiste du Kenya. Elle a été formée aux États-Unis et c'est bien telle. Bon, je ne veux pas dire, bon, ça va. Ça serait quelque chose de bon, mais ce n'est pas le moment de le dire, je pense. Applaudissons pour Elizabeth. Merci beaucoup, Kevin. J'apprécie les bonnes paroles. J'ai pensé que tu allais dire d'autres choses. Alors, je suis contente que tu n'as pas dit ça. Alors, nous continuons avec nos conversations aujourd'hui. J'espère que vous pouvez tous m'entendre et j'espère que je peux aussi voir mon écran. Je vais commencer directement avant, en entendant les autres. Ils vont nous trouver déjà. Continuons. Quand Kevin m'a demandé de faire ça, je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Et il m'a dit, j'espère que tu sauras ce que c'est, et je pense que ce que je présente, ça serait exactement ce que Kevin avait dans la tête. Le thème, c'est ressaisir la voix de la théologie africaine. Alors, je vais vous donner quelques partages de l'évangile de Marc. Et c'est juste parce que je travaille dans ce texte, et c'est plus familier pour moi. Et en commençant ces partages, à la fin, j'espère que nous aurons un moment de partage comme on a fait avec les précédents. Je voudrais que nous puissions penser sur certaines choses. Et je voudrais que nous puissions penser sur certaines questions et valeurs qu'a l'Afrique par rapport au partage. Quand vous allez acheter les livres, un livre par un Africain, un livre par un Occidentaux, le livre d'Occidentaux semble avoir beaucoup de valeurs. Alors, quelles sont les valeurs qu'a l'Afrique? Et des fois, les gens peuvent acheter facilement les livres écrits par un Occidentaux, parce qu'on dit, on veut que les Africains puissent écrire, mais quand les Africains écrivent, nous n'embrassons pas ça. Nous devons réfléchir là-dessus, parce que certains Africains ne peuvent même pas croire qu'ils ont quelque chose de valeur qu'ils peuvent offrir au monde. Et cela est vrai. Et s'il y a certains Africains qui disent dans un domaine pareil, qu'est-ce que je peux dire dans cette réunion, surtout avec les intellectuels venant du monde occidental? Et nous voulons voir comment nous pouvons donc avoir les contextes africains considérés, et si le monde global, l'Église au niveau global ne considère pas la contribution africaine, l'Afrique ne va pas atteindre donc ses objectifs plutôt. Et où nous sommes, l'Église, c'est comme une chanson qui n'est pas encore finie. Si, quand bien même la chanson est belle, mais la chanson n'est pas encore finie. Et je pense que nous connaissons ce que ça signifie. Alors, la position africaine, cette chanson doit arriver à sa fin. Et la position occidentale, vous devez aussi reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore fini dans l'Église jusqu'à ce que nous venons dans notre place. Quelques contributions africaines dans l'histoire de l'Église. Simplement parce que le thème, c'est regagner la voie théologique africaine. Alors, ça veut dire, regagner veut dire quelqu'un avait quelque chose, il a été arraché et il avait donné ailleurs et il veut le retirer, le reprendre. Et je pense que beaucoup d'Africains pensent que la chrétienté nous est venue vers le 19e siècle, mais beaucoup d'entre nous maintenant connaissent. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent que ce n'est pas vrai. La chrétienté n'est pas venue avec les missionnaires aux années 19, vers le 19e siècle. La chrétienté a commencé dès les débuts en Afrique et les orateurs précédents ont partagé. Et je vais donc partager juste pour nous donner le soubassement. Je ne suis pas historien de l'Église, alors beaucoup de détails de l'histoire, je ne ferai pas. Mon mari est historien, c'est lui que je demande. Est-ce que c'est correct? C'est correct. Je pense que, comme Africains, le passé nous donne la lumière au présent et aussi ça nous fait voir l'avenir. Et peut-être certaines situations du passé nous sont vraiment très importantes. Les records bibliques nous montrent comment l'Afrique a taillé la réalité de l'Évangile. Les livres d'actes a des sites de personnes dans le continent africain, Libye. Simon, le père d'Alexandre, il allait dans les pays, on l'a forcé de porter la croix. On voit ça dans le livre de Matthieu, de Luc plutôt. Et la persécution de la première église, certains chrétiens sont allés en Antioche, ils ont commencé à prêcher l'évangile aux Grecs qui étaient là-bas, ça c'est Actes chapitre 11. Et aussi juste après que Jésus puisse partir dans le ciel, c'est où nous citons Philippe était à la route de Jérusalem vers Gaza quand il a rencontré un Enoch. Et bien sûr, il y a des débats il était africain. Et puis, elle était la reine éthiopienne. Il a partagé l'évangile avec lui. L'évangile plutôt avec lui. Il est rentré à la maison. Il a partagé avec ses frères africains. C'est ce que nous pensons. Ça, c'est la période biblique. Alors, quand on pense un peu à la période patriarcale, nous voyons un bon nombre des Africains qui ont contribué. Je vais juste mentionner quelques-uns d'entre eux et leur contribution théologique parce que c'est vraiment important pour ce partage que nous avons aujourd'hui. Depuis, vers le 2e et 3e siècle, Tertullian a fait beaucoup de contributions. N'est-ce pas, nous connaissons que Tertullian est considéré un des pères de la théologie latine. Et si j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct, parlez-moi après ça. Ne le dites pas ici, hein. Alors, il est considéré comme le père de la théologie latine avec sa contribution et influence. C'est lui qui a donc amené le mot Trinité pour expliquer la place du Père, Fils et le Saint-Esprit. Et aussi, il a défendu l'unité de l'union de l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un Africain. Et jusqu'aujourd'hui, la doctrine de la Trinité continue à nous guider. Origène était né en Égypte. C'est lui qui a fait l'herméneutique. Quand bien même l'interprétation était allégorique, mais il a fait des contributions. Et dans ses contributions à la christologie, il a contribué dans le développement de la pensée chrétienne de l'Est. Il a fait beaucoup d'autres choses qui ont contribué aux discussions théologiques. Un autre Africain, Athanase, qui a parlé de l'incarnation liée à la divinité de Jésus-Christ. Il a joué un rôle majeur pour combattre l'arianisme, n'est-ce pas? Nous avons appris ça, une hérésie qui a détruit l'Église vers le 4e siècle. Et on a beaucoup discuté là-dessus pendant le conseil écuménique pour dire que Jésus était de même substance que le Père et aussi être humain. Anastase était un Africain, c'est lui qui a développé toutes ses pensées. Le credo de Nicée et tous nous parle plutôt de la réalité de ce qui était contribué par des Africains. Est-ce que les Africains ont quelque chose à contribuer? Oui, l'histoire le preuve. On ajoute à la liste Augustin, l'évêque de l'Église du Nord de l'Afrique. Il est considéré comme le penseur chrétiens les plus influents. Il a contribué dans la réalisation de plusieurs doctrines, l'Église, la grâce, le sacrement et la Trinité. Et ses travaux, particulièrement sur la ville de Dieu, que je n'ai pas encore lu dans sa totalité, a pu donc avoir un bon nombre de a pu donc faire la synthèse de la théologie chrétienne. Martin Luther a dépendu même de sa théologie pour faire sa propre théologie comme Martin Luther. Je pense que c'est clair. Brièvement, avec cette histoire de la Bible, il est clair que ces croyants africains n'ont pas seulement partagé l'évangile parce qu'ils ont fait ça pendant la période biblique. Ils ont aussi taillé la théologie chrétienne et ont pu donc combattre plusieurs hérésies. Ils étaient au devant des conversations théologiques. Vous serez d'accord avec moi. Clairement, leur contribution avait de grands impacts dans la direction que l'Église a prise. Je pense que vous pouvez dire avec moi que l'Afrique a taillé la direction de l'Église. Et je pense que nous allons encore une fois faire ça. La question reste, comment allons-nous faire ça? Quelle sera la direction à prendre? La chrétienté ne sera donc pas appelée la religion de l'homme blanc. On peut pas appeler ça la religion de l'homme blanc. Quand même beaucoup de gens disent que la chrétienté, c'est la religion de l'homme blanc. Ce sont les choses qu'il nous faut enseigner à nos élèves. Ils doivent comprendre, nos étudiants plutôt, ils doivent comprendre leur source. Alors, avec la situation présente, nous avons un scénario différent parce qu'il y a eu un grand nombre de croissances et beaucoup se passe dans le christianisme africain. Je ne voudrais pas démoniser tout dans la théologie et dans la chrétienté africaine. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, juste comme en Occident. Mais la contribution de l'Église africaine maintenant ne peut pas se comparer à ce qui était dans le passé. Qu'est-ce qui s'est fait dans cette période d'intervention entre la période patristique et aujourd'hui dans la réalité de la chrétienté africaine? Juste un petit résumé. Les controverses doctrines, la controverse doctrinale, importation de philosophie grecque dans la pensée chrétienne, l'érosion de la théologie biblique et les plusieurs perspectives des pères des églises ont contribué. L'arrivée de l'islam vers le 7e siècle a changé beaucoup de choses. Peut-être c'est une des choses qui ont changé beaucoup de choses. En deux points plutôt, qui a changé beaucoup de choses. Et parce que l'Église était alerte, l'Église n'était pas indigène, les gens au nord de l'Afrique n'étaient pas courants de ça. Nous continuons même à faire les mêmes erreurs. Quand l'islam a envahi le nord de l'Afrique, donc le monde n'était pas prêt à ça, donc, quand ils ont donc terminé l'expansion et la croissance de la chrétienté au nord de l'Afrique. C'était la période d'intervention. Et bien sûr, l'Église orthodoxe et coptique, ils ont survécu et ils continuent à vivre dans ces communautés. Pendant le Moyen-Âge et la Réformation plutôt, il n'y avait pas d'activité chrétienne en Afrique. Quand bien même il y avait trois royaumes Nubie qui ont survécu, donc les Nobatia, Makuria et Alodia entre le 14e et le 16e siècle. Et après, vers le 15e siècle, nous voyons la chrétienté qui était réintroduite par les prêtres romains accompagnés par les Portugais. Et le 17e, 18e siècle, il y avait donc la pensée de christianiser donc l'Afrique. Et quelques-uns d'entre eux sont encore représentés jusqu'aujourd'hui. Ça place donc le début de l'entrée missionnaire. L'Afrique a le grand nombre de chrétiens dans le monde. Je pense que c'était l'année passée. Cette croissance s'est augmentée avec la fin de la colonisation. Après la colonisation et la présence des travaux de missionnaires occidentaux, voici comment les choses se sont faites. Je pense, vous voyez ce nombre de gens sur la diapason, ces milliers de personnes dans une croisade d'évangélisation. Il y a eu donc la grande croissance de l'Église en Afrique. Il y a un homme appelé G.R. Mont. J'ai tiré ça du livre de l'âme Sandin. Il dit, il y a un grand nombre de gens vers les années 1910 dans une conférence à Edinburgh. Il dit, Il pensait que l'Afrique serait surprise et dominée par l'islam. Et il y a une conférence que je participe cette semaine. Il y a un monsieur que j'ai oublié son nom. Il est en train de prédire que dans les 100 ans à venir, l'islam sera la religion officielle en Afrique. Je ne sais pas. Mais ce sont les mêmes prédictions que nous avons eues. Et l'Afrique a pris le monde par surprise. Ça a suggéré que le réveil national a eu lieu après la période coloniale. Peut-être la colonisation était l'obstacle. C'est peut-être pourquoi juste après il y a eu cette croissance. Il y avait aussi le renouvellement culturel avec la traduction de la Bible. Quand vous mettez la Bible entre la main de la main, vous mettez la Bible entre la main de quelqu'un dans sa propre langue. Il y a des grandes choses qui se font. Il y a eu donc la chrétienté naturalisée qui a pris la place. Nous connaissons tous donc ces problèmes indigènes que nous allons peut-être parler là-dessus un peu après. Les Africains se sont aussi levés pour vivre donc tout ce qui a à faire avec le compromis des étrangers, avec bien sûr le Conseil des Églises vers les années 1970. Les Africains ont commencé à prendre responsabilité. Permettez-moi le terme. Et ensemble, il y avait bien sûr des stimulations théologiques, de l'adoption théologique de nom de Dieu, surtout des communautés qui avaient déjà la conception de monothéisme. Quand l'évangile leur a été prêché, cela leur a été facile de prendre donc la chrétienté. C'est ce que Sané a dit, pourquoi il y a eu donc cette croissance non comparable. Et il y a eu des communautés d'espoir dans les lieux où il y avait des guerres, des espoirs. Et c'est peut-être pourquoi l'évangile de la prospérité est devenu donc une menace. Si vous vous rappelez de ce qu'a dit mon prédécesseur, il y a les besoins physiques, pas seulement spirituels. Et s'il y a un groupe spécifique qui atteint ces besoins spirituels, c'est ça le groupe qui va donc prendre le groupe, qui va donc diriger. Mais quand même avec des bons débuts comme ça, avec cette croissance numérique, l'Afrique continue à être bloquée par des défis systématiques qui a capturé, qui retient la voix africaine. Nous ne sommes pas en train de chanter comme il se doit. Et nous connaissons bien ces défis, n'est-ce pas? Je ne vais pas beaucoup parler là-dessus. Il y a une théologie néo-pentecôtalisme ou néo-pentecôte. Il y a comme une doctrine, il y a le syncrétisme. Vous verrez ça dans vos communautés, vous verrez comment l'évangile de la prospérité est en train de décevoir beaucoup de gens. Les gens sont détruits avec la pauvreté, la souffrance. Et vous pouvez voir le type de doctrine. Ça, c'est en Tanzanie. J'ai oublié son nom. C'est pasteur. Il ne peut pas piétiner sur terre parce qu'il est vraiment oint. Il doit se mettre sur les dos des membres de l'église. Caxton et moi aimons beaucoup faire ça. Et ici, il faut manger de l'herbe pour Jésus. Ici, on a dit aux gens de manger les herbes pour Jésus. Et ils ont suivi. Et je pense qu'on n'a pas le temps pour ça. Mais si vous pensez un peu sur notre point de vue général, l'autorité, si quelqu'un en autorité vous dit de faire quelque chose, ça doit être correct. Et ça doit être une bonne chose. Ça doit être quelque chose qui va vous bénéficier. Alors, l'évangile de la prospérité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Ça, prendre ça en sérieux. Bien sûr, avec la peine, la souffrance, la pauvreté, c'est une doctrine qui attire. Vous s'aimez, vous deviendrez riche, vos peines vont disparaître, il n'y aura plus de peine. C'est vraiment attirant. L'emploi de médias électroniques rassure que maintenant ceci est dans chaque maison. Et alors? Nous devons nous poser la question, comme Baptiste, est-ce que nous sommes dans chaque maison? Pas encore. Alors ces gens ici sont vraiment des menaces à nous. La prolifération de faux prophètes et des hommes puissants des dieux qui donnent des guérisons, des miracles et la richesse. Ça, on ne peut pas oublier. La chose qui m'étonne, comme dans cette image, où va la richesse? Et regardez bien, c'est un pauvre qui continue à donner, qui continue à donner. Et le pasteur devient de plus en plus riche. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que les membres de la congrégation ne peuvent pas voir le soi-disant, la richesse ne va pas à eux, ça va toujours chez le pasteur. C'est une déception et un aveuglement que je ne parviens pas à comprendre. Je ne sais pas si vous avez appris du prophète Owuor du Kenya. Il a maintenant la plus grande église au Kenya. Il vit et voyage par des moyens les plus chers. Il a des gardes de corps armés autour de lui. Et dans une réunion, il a eu à Nakuru, le mois de décembre. Nakuru, c'est à peu près une heure de route d'ici. Il était accompagné par l'escorte de police et avec 40 voitures militaires comme le président. Et ses membres ne pouvaient pas permettre qu'ils puissent piétiner. Alors, ils ont mis leurs habits sur terre pour qu'ils puissent passer, pour qu'ils ne puissent pas piétiner la terre. Et il dit qu'il a été au ciel, il a la capacité de guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles et même ressusciter les morts. Très récemment, les accusations sont maintenant sur lui parce que ces choses reviennent. Il trompait des guérisons. La vérité va toujours surgir. Et les miracles pour manipuler les gens pour s'enrichir. C'est juste un exemple. Si je devais aller au Nigeria, professeur Emiola peut-être peut mieux nous dire ce qui se passe là-bas, ce qui se passe au Nigeria. Bon, je pense que ce sont des histoires plus graves qu'ici. Allons-y, il y a le syncrétisme. Nous connaissons le syncrétisme, on connaît la sorcellerie, les pratiques traditionnelles, l'adoration des ancêtres, la polygamie. Ces choses sont en train d'augmenter au lieu de se détruire. Et pourtant, beaucoup de pays africains sont chrétiennes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça ne définit le syncrétisme comme le mélange de la pensée chrétienne avec les rituels locaux. Ce n'est pas seulement un problème africain. Les Occidentaux ont aussi leur syncrétisme. Alors, il est important qu'on puisse dire ça parce que quand on parle de syncrétisme, on veut faire croire aux gens que c'est juste un problème africain et asiatique. C'est un problème universel. Le syncrétisme a à faire avec le développement de nouvelles religions africaines. C'est pourquoi les églises en Afrique sont en train de croître, parce que toutes ces petites églises partout, mais si vous les examinez bien, si vous prenez juste les marques des églises en bonne santé, oui ou non, on serait d'accord avec le map, mais avec les marques plutôt. Considérons la place biblique. Ils essaient donc de faire sens à la vie. Malheureusement, beaucoup de ces mouvements sont dans des pratiques syncrétistes. Et ils ne peuvent plus être appelés chrétiennes. Plus que ça, il y a la croissance d'un groupe de chrétiens en Afrique qui rejette la chrétienté. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais au Kenya, la plus grande tribu, c'est le Kikuyu. Vous connaissez ça? Non? Bon, ça va, je vous informe. Le Kikuyu, c'est la tribu la plus large, et maintenant, ce sont eux qui ont le pouvoir. Et cette tribu a connu l'évangile. Ils étaient les premiers à être atteints par les missionnaires. Et maintenant, il y a un grand mouvement appelé Roiro Shokero Mokaro. J'espère que j'ai correctement prononcé ça pour dire que la rivière rentre où elle était venue. Parce que la chrétienté est venue avec la colonisation et la civilisation européenne. La chrétienté les a fait chasser de la voie qu'il faut, les a égarés de la voie qu'il faut. C'est pourquoi nous connaissons tous ces problèmes que nous connaissons comme nation. Alors, la rivière doit rentrer à la place qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenons donc à nos traditions, religions Kikuyu. Alors, l'initiation traditionnelle, les sacrifices sont en train de se faire en même temps avec la chrétienté. Et la plupart d'entre eux sont en train de rejeter la chrétienté. Alors, si les Kikuyu vont quitter, dans un grand nombre, vont quitter la chrétienté, ça serait un grand problème chez nous. Quand bien même nous sommes en train de célébrer que l'Église en Afrique est en train de croître, nous devons aussi reconnaître ces défis que nous connaissons. Il y a donc la puissance, la capacité de corrompre l'évangile. Et comment même nous présentons l'évangile? Une des choses qui me dérange souvent, c'est que je pense que l'Afrique définit la chrétienté pour la génération suivante. Parce que nous sommes nombreux. C'est bien nous qui devons, nous sommes en train de définir que sera la chrétienté dans le siècle à venir. Et nous devons rassurer que notre chrétienté est biblique. Et ce n'est pas la chrétienté que nous sommes en train de leur rendre aujourd'hui. D'autres défis. Je ne veux pas parler de la corruption. C'est une pratique qu'on en parle toujours dans nos médias. Les maladies, les souffrances, les schismes. Vous pouvez voir ce que je veux dire quand je parle de schisme, n'est-ce pas? Et nos schismes ne sont pas de problèmes doctrinaux. Ce sont plutôt les résultats de force de pouvoir, la politique. Vous vous séparez à cause de la politique, pas à cause de couleur de tapis. Les baptistes font ça des fois, n'est-ce pas? Bon, il y a aussi les problèmes tribaux. Je vais un peu en parler. Parce que je pense que nous devons comprendre que nos identités tribales sont vraiment importantes. En tant qu'Africains, en croyant africain, et nous pouvons l'utiliser pour notre bien-être ou contre nous. Et bien sûr, nous avons aussi la croissance de l'hostilité ethnique. C'est juste une petite image, je n'ai pas agrandi. Ça s'était fait au Kenya l'année 2007, après les élections. Et que ce qui s'est fait dans les communautés chrétiennes, les chrétiens qui ont vécu ensemble pendant très longtemps, ils se sont brûlés les uns les autres parce qu'ils étaient de différentes tribus. C'était des personnes qui ont adoré ensemble. Ils ont eu de fraternité ensemble. On les a mis ensemble dans l'église et on a brûlé l'église. C'est une réalité. Voici certains des défis que nous sommes en train de faire face. Et je voudrais dire que ces défis, je pense que vient de problème de notre dichotomie de vie. Il y a quelqu'un qui a appelé Magessa, a dit beaucoup sont des chrétiens africains qui travaillent avec deux modes de réflexion. Tous les deux sont interliés. Et tout un chacun d'eux est superficiellement modifié par l'autre. Un Africain est vraiment est vraiment bien cadré. Ça, c'est ma vie chrétienne, ça, c'est l'autre vie. C'est pourquoi un chrétien serait corrompu parce qu'il y a d'autres choses qui le poussent. Peut-être c'est une responsabilité communautaire d'employer membres de la famille, c'est népotisme. Pour lui, il est en train de résoudre un cas communal. Et de l'autre côté, il y a la chrétienté. Vous pouvez lire mon livre, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, cette répartition crée donc la dichotomie. Et quand vous avez affaire avec un Africain, il faut toujours réfléchir là-dessus. Des fois, on ne les fait pas consciemment. Des fois, on les fait inconsciemment, mais nous sommes divisés la manière dont nous faisons les choses. Qu'est-ce que Hillman dit? Il dit, voici la source de tout, de la pensée dichotomique. Nous ne voulons pas les détruire. Les processus colonial a peut-être sous-estimé les systèmes, les valeurs de toute une richesse culturelle. On a mis les gens nus et on les a appris être honteux d'eux-mêmes. Et les peuples étaient forcés moralement pour s'habiller de la manière de la culture qui les a envahis. Le colonisateur nous a appris que leur manière était les meilleures. Je ne le condamne pas. Nous avons aussi des responsabilités. Mais quand même, le colonisateur ils ont amené la culture et les médicaments. Ils nous ont fait croire que leur pensée était supérieure. Beaucoup ont pensé que le progrès, ce n'est pas à être qui vous êtes, mais en imitant les moyens occidentaux. Alors, comme Africains, nous voulons imiter les voies occidentaux sans pour autant considérer notre état africain. Gagalo dit que la chrétienté qui était produite par ces missionnaires était aussi un des problèmes des réalités politiques et sociales. Vous voyez aujourd'hui les gens rejoindre l'église et devenir membre d'église parce que c'est leur tribu, parce que c'est politiquement correct être parti de cette église. Ça c'est fait. Au lieu que ça soit la foi comme motivation de rejoindre la foi, ce sont les circonstances historiques, les besoins de coopération, affiliation et des différents intérêts. Alors, cette ré-socialisation par rapport à la position socio-économique, intellectuelle, ministre dans la politique, ça veut dire que les Africains ne connaîtront plus qui ils seront, parce que nous sommes en train de copier l'Occident, mais nous n'avons pas encore défini qui nous sommes en tant qu'Africains chrétiens africains. Je pense que pour que nous puissions regagner notre voie théologique, c'est là où nous avons commencé, la solution c'est la redéfinition de notre identité. Je pense que c'est ce que nous avons besoin. Si nous connaissons qui nous sommes, notre voie sera ce que Dieu a voulu que ça soit. Apocalypse chapitre 7 verset 9, ça représente une bonne église. Nous connaissons ces textes, mais qu'est-ce que ça signifie? Penser qu'il y aura un grand nombre qu'aucune personne ne pouvait compter de chaque nation, tribu et langue devant le trône et devant l'agneau. Chers Africains comme Africains chrétiens, les Américains comme les Américains chrétiens, etc., etc. Je pense que vous me comprenez. Il nous faut redéfinir notre identité sans pour autant rejeter qui nous sommes et célébrer la diversité que nous amenons dans l'Église. Alors qu'avons-nous besoin? Nous avons besoin donc de points de vue bibliques et en même temps garder ce qui est uniquement africain. Je pense que cette image le dit. Il y a une femme Maasai qui chante avec ses vêtements traditionnels, mais elle a la Bible. Ça doit être bibliquement, correctement biblique. C'est vraiment important. Pourquoi se concentrer sur l'identité? Je vais parler de l'identité baptiste. Je me parle un peu d'une manière générale. Nous travaillons par rapport à nos identités. Ça, nous le connaissons. Et en Afrique, notre culture inclut notre culture religieuse et identité tribale peut aussi surmonter notre identité chrétienne. Il est vraiment important de comprendre cela parce que nous serons tous des chrétiens ensemble, mais je serai, vous êtes Kikuyu, vous êtes Luo, quelle est votre tribu? Et cela crée donc plus de liens, de rapports que être chrétien. Ça, c'est un de ces problèmes que nous avons. Qui est un Africain? Qu'est-ce que ça signifie être un chrétien et africain? Je pense que c'est une question que nous devons combattre avec ensemble dans cette salle. Qu'est-ce que ça signifie? Redevenir l'identité, c'est difficile, c'est un combat. Parce que les gens, je ne veux pas dire, les gens veulent être qui ils sont. La transformation n'est pas facile. Alors, quand vous pensez à ces erreurs, il est vraiment difficile même de définir notre identité de la manière qu'il faut. L'Afrique continue à changer. Il y a multiples voies qui nous poussent de différentes directions. Comment alors reconnaître qui nous sommes? J'espère que j'ai encore du temps. Comment établir notre droit, notre identité dans ce monde qui change très vite après la colonisation, parce que nous avons affaire avec tout ça. Comment virer de la place moderne, traditionnelle, parce qu'en Afrique, on n'a pas seulement affaire avec le monde post-moderne, mais plutôt les réalités traditionnelles et culturelles qui continuent à nous pousser en arrière, parce que vous faites partie d'une communauté. Et comment allons-nous donc gérer la situation plutôt moderne et traditionnelle? Qui sommes-nous en relation par rapport à Dieu? Et aussi, nous devons avoir de bonnes relations avec Dieu et aussi avec des communautés. Parce qu'en tant que chrétien, vous êtes partie d'une communauté de foi. Et je pense pour un Africain, c'est plus dur encore parce que, considérant où nous venons, ça insiste beaucoup à cet aspect communautaire. Alors, quelle est notre vraie identité? Alors, la compréhension de Jésus dans l'évangile de Marc nous donne donc un miroir qui peut nous aider à retailler notre identité en tant que chrétien. Je ne veux pas parcourir tout le livre de Marc parce que ça va nous prendre plus de temps. Je veux juste prendre quelques aspects sélectionnés de l'identité de Jésus dans l'évangile de Marc. Ceux qui vont discuter, dire que je n'ai pas parlé de ceci et de cela, je le dis déjà en avance. Je ne veux pas partager sur tout le livre de Marc. Pourquoi Marc? Je sais que Marc n'est pas populaire parce que les gens aiment Jean, les gens aiment Matthieu. J'aime Marc. La manière dans laquelle Marc parle de l'identité de Jésus, c'est vraiment attirant pour moi. Je n'ai pas aimé Marc, je m'excuse de dire ça, pas parce que, bon, vous comprenez ce que je veux dire. J'aime toute la Bible, je préfère Jean, et maintenant je commence à apprécier Marc et son style. Et Marc, quand il parle de l'identité de Jésus à travers des séries de conflits et même compréhensions, on commence à comprendre Jésus tel qu'il est. Alors, je vais utiliser le livre de Marc pour utiliser des différents termes théologiques du Nouveau Testament. Et quand on comprend cet évangile, Jésus est un miroir pour nous. Et Marc, il nous donne l'entrée vers la place où il y a ce miroir. Il est peut-être quelqu'un qui comprend mieux l'histoire, plutôt là, il parle de l'identité, le pouvoir, cher Africain, l'autorité, cher Africain, la souffrance, cher Africain. Alors, quand vous lisez le livre de Marc, vous voyez toutes ces choses. Vous allez bien comprendre l'histoire de Jésus telle que rencontrée par Marc. Il y a aussi des parallèles avec notre contexte africain. Marc est en train de parler d'une manière vraiment orale. Quand vous lisez Marc, c'est comme s'il est en train de parler. C'est vraiment, ce n'est pas une manière littérale des écrivains. Beaucoup de similarités de l'aspect culturel avec l'Afrique. D'autres évangiles aussi le font, mais Marc semble donc amener ces similarités plus claires. Quand vous parlez de l'exorcisme, l'autorité de Jésus sur la nature, sur les forces démoniaques, ce sont les choses que nous comprenons mieux en Afrique. C'est aussi l'histoire. L'histoire qui a des images semblables aux histoires africaines. Quand nous lisons le livre de Marc, immédiatement nous pouvons identifier avec Marc. C'est pourquoi j'ai choisi le livre de Marc pour nous donner quelques leçons. Nous devons reconnaître qu'il est qualitativement différent des histoires africaines parce que c'est théologiquement motivé. On a besoin d'une réponse de foi. Je ne dis pas que le livre de Marc, c'est une conte africaine. Non. Mais ça peut nous aider d'entrer dans la réalité de la foi. Quelles sont les leçons qu'on peut apprendre du livre de Marc? Je pense que la première chose, c'est l'intégration de la culture. Quand on parle de l'intégration de notre culture, les gens pensent de catholiques, parce que ce sont eux qui ont pu mieux faire ça. Ce n'est pas ce que Jésus entend de dire. Marc, si on pense de Marc, Marc chapitre 2, verset 18 à 22, c'est au centre des 5 scènes de conflit, entre chapitre 2, verset 1 jusqu'à chapitre 3, verset 6. Quand vous lisez ces textes, vous voyez le conflit entre Jésus et les pharisiens, et maintenant bien clair dans le public. Avant, c'était caché, mais maintenant c'est ouvert. Maintenant on commence à comprendre, vous pharisiens, nous voyons ce que vous voulez, nous comprenons, vous voulez tuer Jésus. Les critiques contre Jésus deviennent très directes, comme les pharisiens commencent à questionner la validité du ministère de Jésus. Et dans ce texte ici, la chose majeure, c'est que les disciples de Jean et les pharisiens sont en train de jeûner et les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Vous comprenez l'histoire, c'est là où nous sommes. Jeûner, c'était une activité religieuse dans le judaïsme. C'était un aspect de la piété de plusieurs religions. Et jeûner en soi, ce n'était pas un prérequis de la loi, sauf au jour du pardon. Et les pharisiens ont fait ça une pratique, jeûner deux fois la semaine, un peu légalistique. Et c'est ce qu'il faisait. Alors, quel était le problème ici? Le jeûne qui est parti au-delà de prérequis normal. Et Jésus n'est pas contre la loi, mais il est contre la tradition. Alors, ici, c'est bien où ils vont s'attaquer à Jésus. Comment est-ce que Jésus va combattre cette attaque? Vous penserez qu'il ira dans l'Ancien Testament. Non, il utilise les matériels de la réalité juive. Il a parlé donc d'un proverbe de mariage. Il a parlé du jeûne. Il a dit que ce n'est pas important tant que lui, c'est lui qui est le fiancé, est avec la fiancée. Et nous pouvons donc comprendre et dire, la célébration du mariage, c'est comment dans la vie africaine. Vous pouvez écouter les femmes en train de hurler quand elles accueillent la femme, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de célébrations. Il n'y a pas de jeûne pendant la fête de mariage. Nous pouvons nous connecter avec cette expression de Jésus, tout ce qui a à faire avec tout ce qui a à faire avec le pleur n'est pas associé, n'est-ce pas? Tout premièrement, acte de pleur n'était pas accepté pendant les 7 jours de la célébration de mariage. Vous n'étiez pas permis dans n'importe quelle action de pleur. Le judaïsme a considéré donc le mariage comme symbole d'un nouveau marque du salut. Alors, cela a été présent en Jésus. La célébration, c'était plus approprié pour les disciples que les jeunes. Et c'est peut-être pourquoi Jésus n'a pas forcé ses disciples de jeûner quand il était là. Mais une fois la femme est partie, une fois le mari est parti, ils peuvent jeûner. Alors, la partie du mari avec le livre d'Osée, c'est bien sûr sa mort, la mort de Jésus qui allait venir. Dans l'Ancien Testament, dans la période intertestamentale, donc le jeûne avait affaire avec le pleur. Quand il a parlé de ça, toutes ces connexions étaient dans leur tête et ils ont compris immédiatement ce que Jésus était en train de dire à travers ce proverbe ou cette expression. Il a aussi utilisé 2 proverbes sur le vent. C'était pas Baptiste hein, pour Jésus de parler de vin, mais prendre le vin c'était normal dans la culture juive. Mettre donc le nouveau vin dans un ancien bal, ce n'était pas quelque chose de bien. Alors, il a utilisé donc le proverbe de la place et de parabole. Alors, Jésus a intégré la culture pour rencontrer une vérité importante de la théologie. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais m'arrêter ici immédiatement. Jésus a utilisé les matériels de sa culture pour communiquer un point théologique vraiment important. Et on nous a dit que nous sommes en train d'imiter Jésus. Alors, l'emploi de ces proverbes et ces paraboles l'ont aidé à définir la relation entre la loi et la nouveauté qu'il est et qu'il amène. Alors, au lieu de leur donner une longue leçon théologique, Jésus s'est dit, bon, je pense que ces gens, ils peuvent mieux comprendre ça. Ça fait partie donc des matériels de la culture, de la place. En utilisant ces matériels culturels, il a donc formé un pont pour mieux communiquer, qui n'est pas venu pour réformer le judaïsme, mais il représente quelque chose d'autre qui ne peut pas coexister avec l'ancien. Alors la première leçon que nous avons appris, c'est vraiment approprié d'intégrer nos cultures dans nos philosophies, développement et méthodes de présentation de contenu théologique tel que enseigner dans nos matériels théologiques, dans nos musiques. Les bons éléments de notre culture peuvent être utilisés. Bien sûr, à la fin de la journée, la Bible est l'autorité finale. Et s'il y a un aspect de notre culture qui contredit les vérités bibliques, quelle que soit l'importance de la chose à nous et à notre culture ou communauté, nous devons mettre ça de côté. J'ai quelques exemples. Je ne vais pas tout parcourir, mais les 2 premiers sont des catholiques. Ils ont fait de l'herméneutique interculturelle. Ils ont utilisé les ressources africaines des contes pour créer donc le pont vers les textes bibliques. Je voudrais voir Ezekiel Ajibade. Il est dans l'école biblique théologique de Nigeria. J'ai beaucoup aimé comment il a fait son livre. Il a intégré beaucoup de genres dans la tradition orale africaine dans l'exposition de la Bible. Il y a aussi Haddon Robinson. C'est un livre que je connais, j'aime. Il est consistant avec ça. Mais ce que Ézéchiel fait, il commence à intégrer les chansons, les proverbes, les poèmes, les contes africains dans la contextualisation de la prédication. Et il suggère qu'on peut utiliser ces éléments oraux. Parce que il est en train de dire que l'oralité, comme nous l'avons dit l'année passée, reste un aspect utile dans nos communautés. Alors, quand vous intégrez l'élément oral, vous serez donc en mesure d'atteindre mieux, atteindre votre congrégation. Il a son livre, je ne sais pas s'il y en a ici, c'est déjà publié, et une des choses qu'il fait dans ce livre, c'est donner des exemples comment les choses peuvent se faire. Par exemple, le pasteur est en train de prêcher, et il commence à chanter, et la congrégation répond. Il chante et la congrégation répond. Il utilise les ressources culturelles pour assurer que la vérité biblique est maintenue. Les Africains aiment chanter. Ça aide donc la vérité biblique de rester dans leur tête. Alors, ce que je suis en train de suggérer, c'est de chercher ces ressources dans votre culture qui peuvent créer le pont. Le pont pour l'évangile. Je pense que je dois reconnaître que beaucoup des chrétiens en Afrique peuvent avoir de problèmes avec cette approche. Mais ce n'est pas nouveau. C'est faire ce que Jésus avait fait, comme nous avons vu du texte précédent. C'est vraiment... C'est une technique, je m'excuse. L'interrogation de point de vue. Jésus enseignait avec l'autorité. Marc... Là, c'est la deuxième leçon. Premièrement, c'était intégration de la culture. Deuxièmement, c'est interroger notre point de vue. Je pense que c'est quelque chose que nous sommes en train de dire. C'est vraiment important dans nos études théologiques. Dans chapitre 1, versets 21 à 28, Jésus entre dans le synagogue. Il commence à enseigner et il y a quelqu'un là-bas qui est possédé par le démon, et Jésus va faire donc l'exorcisme. L'exorcisme fait partie de notre compréhension. Combien d'entre nous n'ont jamais vu l'exorcisme? Peut-être vous êtes baptiste. C'est ça le problème. Mais dans la plupart de nos églises, ça s'est fait régulièrement, presque chaque dimanche. Les gens vomissent, les gens tombent quand on chasse les démons de leur corps. Et cet homme que Jésus est en train de faire l'exorcisme sur lui, a posé à Jésus deux questions. Et après, il a fait une déclaration qu'il reconnaissait qui Jésus était dans la présence et la présence du royaume de Dieu dans son ministère. Cet homme, où l'esprit en lui reconnaît que Jésus va donc vaincre les forces sataniques. Nous connaissons pendant ce temps, l'exorcisme c'était commun dans la culture juive. Et l'exorcisme, comment cela a été fait? Ils utilisaient les formulaires magiques où ils appelaient des esprits supérieurs pour les chasser. Mais comment Jésus les faisait, c'était autrement. Il a juste prononcé un mot. Ce n'était pas fait de la manière dont les gens ont faisait dans le passé. Alors, la réussite de l'exorcisme en parlant seulement, c'était quelque chose de nouveau. Jésus a compris donc... Il a compris la vision du monde de ce peuple, leur point de vue. Et il a agi autrement. Par exemple, il n'a pas douté que le Messie était possédé, mais son approche était différente de ces gens qui étaient avec lui. On peut parler de ceci un peu plus si nous avons le temps. Mais l'exemple que je vais vous donner de mon livre, ça commence avec la perspective de notre point de vue général qui affecte et influence comment est-ce que nous vivons, n'est-ce pas? Et aussi comment nous comprenons la Bible. Ça s'appelle donc, je l'ai donné un nom africain, J'ai utilisé le fait que il nous faut interroger notre conception, notre perception, même quand nous lisons la Bible, comme ça, les éléments qui nous causent à mieux comprendre, les éléments qui peuvent nous faire à mal comprendre les textes, nous allons les mettre de côté, et ceux qui nous aident à mieux comprendre les textes peuvent être incorporés pour nous aider à mieux comprendre les textes. Par exemple, si vous voyez les cas de Anna et Della, le cas de Anna, et manque d'enfants. Comment est-ce que nous comprenons ces cas chez nous en Afrique? C'est une malédiction. C'est une honte. La stérilité pour une femme. Alors, en Europe, c'est une condition médicale, peut-être. Je n'ai jamais entendu mes amis européens où je n'ai pas eu d'enfants. Peut-être que je suis maudit. Mais chez nous, en Afrique, pour comprendre les textes avec la pensée africaine, utilisez ça parce que c'est l'honneur et la honte quand nous lisons l'histoire d'Anne. Nous comprenons sa situation mieux comme en tant qu'Africain, je pense, qu'un Occidentaux, parce que nous n'allons pas directement à la pensée médicale. Oh non, cette femme, peut-être, elle connaît beaucoup de la honte quand elle vit dans la communauté. Alors, notre point de vue, notre perspective nous aide à mieux comprendre. Ça peut aussi nous bloquer, je n'ai pas le temps de partager dans certaines manières, ça peut aussi nous bloquer de faire voir les choses. Hébreux 11, quand on parle de la foi, alors nous intégrons notre culture, nous interrogeons notre point de vue. La troisième leçon, c'est, j'espère que je vais vous donner 5 minutes pour partager là-dessus, c'est l'exploitation de nos orientations et pratiques. Et Jésus parlant donc du grand commandement. Quel est le plus grand commandement? Je ne veux pas aller dans l'exégèse. Croyez-moi que j'ai bien parcouru l'exégèse. Jésus a répondu, au lieu de dire un, il a mentionné deux qui sont interliés. Un docteur de la loi vient qui demande à Jésus quel est le plus grand commandement, et il mentionne les schémas de Deutéronome, n'est-ce pas, par rapport à la relation. Et Jésus parle de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est bien sûr le plus grand commandement. Alors, l'amour que Jésus en parle ici, ce n'est pas un sentiment, mais c'est plutôt la pratique dans laquelle quelqu'un se déverse verticalement et horizontalement. Alors, la foi, une fois la foi se manifeste de manière concrète, c'est comme résultat de relations directes avec Dieu et les autres. Et ici, je peux me mettre dans le trouble parce que quand nous prêchons l'évangile comme Africains, nous avons l'inclinaison de vouloir résoudre le problème physique quand nous sommes allés prêcher l'évangile. Et je n'ai pas de problème avec ça. Je vais mal sentir si je prêchais l'évangile et laisser quelqu'un affamé. Alors, cette orientation pratique que nous avons, quand nous regardons la Bible, nous sommes vraiment religieux, comme cela a été dit avant. Nous regardons la Bible, nous lisons. Quel est l'aspect pratique? Des fois, on ne fait même pas les exégèses. On regarde seulement les textes et on voit où appliquer. L'application veut dire notre réalité contextuelle doit être résolue et considérée. C'est ce que je veux dire quand je parle de l'exploitation de notre orientation pratique. Parce que c'est naturel pour nous déjà de voir quelle est la chose concrète que je dois faire ici. Et quand nous sommes en train de regagner notre place, nous devons exploiter ceci et enseigner le reste du monde. Et puis, il y a un exemple que Kouni nous a donné dans son éthique chrétienne. Dans l'exploitation de cette orientation pratique, nous devons éviter les deux horizons, la fusion, ce qui était avec, qu'est-ce que ça signifie pour les groupes originaux? Par exemple, les textes, ce que Paul disait aux Éphésiens, ça n'est pas pour nous directement. Il nous faut aussi prendre l'espace d'abstraction pour voir qu'est-ce que ça signifie pour nous. Et finalement, l'engagement de la communauté dans nos travaux théologiques. C'est vraiment important. J'ai entendu ceci mentionné par-ci, par-là. Marc parle bien sûr de l'inclusion. L'inclusion, chapitre 9, verset 38 à 40. Quelqu'un faisait de l'exorcisme, Jean l'a stoppé. Et Jésus a dit non, celui qui n'est pas contre nous est le nôtre. Et je ne suis pas en train de parler de l'inclusion qui inclut toutes les religions. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici. ceux qui les critères, c'est de croire au nom de Jésus. Ceux qui sont croyants, et je crois que ils ont l'orientation commune que nous devons les inclure dans notre pensée théologique. Laissez-moi expliquer pour ne pas me mettre dans des problèmes inutiles. Au lieu de nous cacher dans nos cocoons, pourquoi ne pas exploiter le fait que la communauté est très importante en Afrique et nous pouvons lire nos Bibles ensemble avec la communauté comme lecteurs et engager les communautés dans nos travaux théologiques. Comme ça, nous n'allons pas créer des programmes et curriculums qui n'ont pas d'impact sur terrain parce que nous n'avons pas parlé aux gens sur terrain. Je parle donc de l'inclusion idéologique quand je suis en train d'écrire mes thèses théologiques. Est-ce que je peux demander à un laïc et voir qu'est-ce qui se passe? Parce que deux fois, nous parlons en haut ici et nous oublions que les lecteurs ordinaires ne sont pas seulement les terrains d'application. Nous devons partager avec eux dans ce projet. Et j'ai vraiment fait vite où on a fait ce travail. Il appelle ça la lecture communautaire. Elle est féministe. Je suis pas en train d'endorser son point de vue. Elle pense plutôt à comment on peut aussi impliquer les femmes, surtout pour les femmes qui sont dans les mêmes conditions que ceux dans le contexte biblique. Et comme ça, on peut mieux comprendre donc la situation. Kevin me regarde, alors je vais finir. J'ai dit beaucoup de choses en termes de comment nous pouvons regagner notre voix. On a parlé de l'intégration de la culture, interroger notre point de vue général, exploitation de notre orientation pratique et aussi engager la communauté dans nos travaux théologiques. Surtout la toute dernière, quand nous avons des pratiques où les étudiants vont aller faire des stages, qu'ils ne travaillent pas seulement avec les pasteurs, mais aussi avec les personnes qui viennent à l'église. Ça aura bien sûr un impact sur comment nous faisons la théologie. Certaines de ces approches sont donc interliées. Par exemple, pour moi, je commençais par l'interrogation de point de vue général. Où Pong parle de lecture communautaire. Il insiste aussi sur des pratiques. C'est vraiment important. L'objectif de l'interprétation, c'est plutôt l'importance du texte théologique dans le contexte actuel pour rassurer l'intégration entre la vie et la foi et même le dévouement sociétal pour la transformation. Alors, si on ne fait pas des applications, on n'aura pas donc des transformations. Nous sommes allés parler d'un dialogue à deux voix. Alors, je vous partage ceci, espérant que vous avez tiré quelque chose. On a besoin de considérer le point de vue des textes bibliques et la tradition et la situation actuelle de l'Afrique. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur le point de vue culturel, l'orientation culturelle et autres. On a besoin donc d'avoir ça dans la Bible. Je pense que de tels dialogues vont nous permettre, en tant que chrétiens africains, de forger l'identité qui va donc faire voir l'identité de Jésus lui-même. Avec ça, nous aurons bien sûr les éléments positifs. On va développer donc des théologies, de l'éducation théologique contextualisée. Et avec ça, nos étudiants seront donc bien équipés. Nous allons promouvoir les prédications bibliques qui seront effectives. Nous cherchons la transformation, pas seulement de bonnes prédications. Nous aurons de bonnes ecclésiologies. Nous allons développer de l'ecclésiologie pertinente. Et aussi, nous allons pouvoir donc d'un impact dans la mission globale. Je pense que vous avez 5 minutes, je m'excuse pour ça. Kem vous a donné 6, moi je vous donne 5, ça va. Voudriez-vous, peut-être ce côté de la salle, C'est toujours différent de demander aux gens de faire les choses. Qu'est-ce qu'il disait? C'est côté, voudrez-vous penser sur, dans votre éducation théologique, comment vous pouvez intégrer la culture et comment vous pouvez exploiter les pratiques, les orientations pratiques. La culture est exploitée. Les orientations pratiques et vous allez faire comment est-ce qu'on peut intégrer notre point de vue général, comment les mettre en œuvre dans nos curriculums et aussi comment nous pouvons les engager, comment on peut engager la communauté. Vous pouvez faire le plus facile si ça va. Nous n'avons que 5 minutes.